bas.
Bah, on descend, au fond de la mine.
Ah ouais. C'est long, non ?
Faut descendre toujours plus profond pour trouver quelque chose maintenant.
Ah ouais.
Bon, on envoie le générique ?
Ouais.
Ouais.
Ces terres-là, elles vont être artificialisées.
En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes.
Vous avez le capital.
Achetez des forêts pour enraciner vos placements.
Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser, de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, bah...
Ils continuent à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
L'appareil policier a procédé à des perquisitions et des interpellations auprès de 9 personnes.
Du pain et des parpaings.
Du pain et des parpaings.
Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
Un ensemble d'actes de désobéissance civile, volontaire et réfléchie.
Comme on dit, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
Salut tout le monde et bienvenue dans la 22e émission de Du pain et des parpaings, une émission mensuelle sur les luttes contre l'accaparement des terres, la gentrification, l'agro-industrie, le capitalisme vert, le pourrissement des écosystèmes, le colonialisme, l'extractivisme des corps et des matières, le tout principalement en Bretagne, mais pas que.
C'est justement sur ce « mais pas que » qu'on va rebondir aujourd'hui. En partant de la carrière d'Andalousie de Glomel le mois dernier, on creuse cette fois la question plus large de l'extractivisme minier.
Et on va le faire en bonne compagnie, avec des ressources précieuses, comme le dernier livre de Célia Izoard, La ruée minière du 21e siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Et Dominique Williams, bénévole la nuit et le jour à Haut-Hervire de Bretagne. Alors Dominique n'a pas pu être là avec nous, mais on est allé la voir et on a tout enregistré dans une salle qu'on nous a gentiment prêtée. C'est parti, entretien avec Dominique.
Donc bonjour Dominique.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ton engagement à ERB et sur le travail que tu y fais ?
Eh bien, j'interviens dans le cadre de l'activité d'Eau et Rivière de Bretagne, hein, qui a été fondée il y a 55 ans. Et qui s'occupe de travailler dans le domaine de l'éducation populaire, de la protection et de la gestion des milieux aquatiques, de la source à la mer, du haut de la colline jusqu'à l'estuaire. J'y suis impliquée depuis, je crois bien, 2009, dans le cadre essentiellement de la protection du bassin versant Ellet-Isole-Laïta, donc à la frontière entre le Morbihan et le Finistère, sur lequel je réside. Et j'ai été active, et je suis toujours active, au niveau de la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, où je représente désormais Eaux et Rivières à la clé. Et puis, on a également beaucoup travaillé avec tout un groupe sur la création, puis l'extension du site Natura 2000 Rivière-Ellet, qui était un peu étriqué au départ. Donc, on a exigé et obtenu une extension, pratiquement le doublement de la surface. Donc mon activité, elle se traduit par une certaine vigilance concernant les projets agricoles, urbanistiques, industriels, les éventuelles pollutions, parce qu'il y en a, dans un but de protection des milieux naturels et particulièrement aquatiques, parce que c'est là qu'est l'eau, et l'eau, ça conditionne tout le reste.
Toute la vie.
Tout.
Et pour en parler, on va se demander où en est l'activité minière aujourd'hui et pourquoi. Quel est le rapport entre extractivisme et transition? Et pourquoi des collectifs se forment pour s'opposer aux projets miniers? Comment luttent-ils?
Depuis quelques temps, des pays européens ont décidé de relancer l'activité minière un peu partout. Et en France, il y a eu un virage qu'on peut dater du premier gouvernement sous Hollande. Donc Arnaud Montebourg, qui fait carrière dans les années 2010 avec le vent de la démondialisation, de la réindustrialisation, badigeonné de localisme et de patriotisme économique, met en place des plans d'aide, voire de sauvetage à des entreprises de l'industrie et du métal, lorsqu'il est ministre sous donc le gouvernement Hérault, le premier, le deuxième, puis Valls, sous une nouvelle appellation bien virile, le redressement productif.
Dans ce contexte, l'idée de relancer l'activité minière en France s'impose. Montebourg, en 2012, disait de l'exploitation minière qu'il s'agissait d'une forme de technologie moderne, nouvelle, à taille humaine. Et donc, à partir de 2012, les permis exclusifs de recherche de mines, PERM, explosent. Sachant que le gouvernement a reculé sur les gaz de schiste, les mines en version moderne et avec un peu de greenwashing, c'est un moindre mal.
Et Montebourg, qui a des ambitions présidentielles, promet des conglomérats capables de devenir des champions européens et mondiaux dans les mines, dans la métallurgie, dans l'énergie. Nous pouvons, dit-il, reconstituer notre puissance industrielle et les emplois qui vont avec sur le territoire français. La soupe habituelle est servie, on vend du rêve à des petites communes avec des emplois directs et indirects, et on assouplit le code minier pour faciliter le tout.
Aujourd'hui, c'est un autre discours qui est servi. Comme pour les agrocarburants qui sont nés d'une voracité de parts de marché et ont ensuite été repeints en vert, les mines, aujourd'hui, ont trouvé un alibi imparable, la transition énergétique.
Puisqu'on veut passer à la société du tout électrique, il va bien falloir trouver du lithium et d'autres métaux et terres rares pour faire rouler les voitures. Et puisque la pilule de la transition passe bien, on a aussi trouvé la transition numérique.
Chaque fois, c'est une opportunité économique pour gaver des industriels qui battent tous les ans des records de profit. Et chaque fois, le monde politique invente un nouveau vernis qui brille, en vert de préférence.
En attendant, c'est encore des terres qui sont confisquées aux arbres et aux habitants et aux habitantes, de l'eau qui est accaparée et polluée, et des écosystèmes déréglés pour des milliers d'années.
L'extraction minière est réputée l'une des activités les plus polluantes au monde, l'une des activités qui émet le plus de carbone, d'équivalent carbone de tous les secteurs. Et pourtant, après l'accord de Paris, il y a vraiment eu une sorte d'offensive de la Banque mondiale et du lobby minier pour démontrer que pour respecter l'accord de Paris, il fallait surtout mettre en place une politique de substitution énergétique. Produire des énergies renouvelables, déployer des parcs de véhicules électriques et que tout ça allait demander énormément de métaux. D'autant plus que personne ne remet en question la consommation d'électricité et le mode de vie que je qualifie d'impérial. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle la transition fait appel à des quantités absolument colossales de métaux qui sont très polluants à extraire et qui, en plus, dont l'extraction, émet énormément de gaz à effet de serre. L'argument de extraire des métaux pour la transition est en fait utilisé tous azimuts par l'industrie minière pour ouvrir à peu près n'importe quelle mine dans n'importe quelle partie du monde.
Donc on vient d'entendre Célia Izoard qui parle de la recherche, de l'enquête et de l'investigation qu'elle a fait pour écrire son dernier livre « Rue et minière au XXIe siècle ». Dominique, est-ce que toi, comme Célia Izoard, tu penses que tout est à jeter ou est-ce que dans un monde idéal, est-ce qu'il pourrait y avoir, selon toi, des mines écologiquement viables ?
Alors, il y a les constats qu'on peut faire à titre personnel, et puis il y a les éléments techniques, scientifiques, politiques auxquels on peut avoir accès. Merci Internet. Et donc, la leçon apprise par mon expérience personnelle, c'est que les solutions qui apparaissent simples et faciles à la surface sont en général plutôt piégeuses et qu'on en paye les conséquences assez rapidement. Donc, ça incite à réfléchir. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre, grand nombre d'acteurs industriels, politiques, qui vendent une image totalement désincarnée de l'activité minière extractiviste sous la formule des formules mine propre, mine vertueuse, mine verte, ou après mine, comme si on pouvait fermer le tiroir et puis jeter la clé et tout allait bien. Et puis désormais, ben, ça a été évoqué, la transition énergétique. Le problème, c'est que au bout du raisonnement, on se heurte aux lois de la chimie et de la physique qui sont têtues depuis que la planète a commencé à tourner. Et que le fait de transformer de la roche massive en utilisant des explosifs, des brise-roches, du broyage, de passer de blocs qui font des centaines de tonnes avec des brise-roches pour les tailler en plus petits, puis arriver au bout après moult transformation en farine, parce que c'est le grammage final, pour pouvoir en extraire le métal. Ça déclenche, ça a déclenché, ça déclenchera toujours des réactions chimiques qui sont extrêmement impactantes. Mmh. Et pour l'environnement, pour la santé publique, quel que soit l'emballage publicitaire. Donc cette activité génère et générera toujours d'énormes consommations d'énergie et d'eau qui sont équivalentes à celles d'une agglomération de plusieurs dizaines de milliers d'habitants pour une seule mine de taille moyenne. La production d'énergie carbonée ou électrique nécessite des équipements et des réseaux de transport filaires, qui eux-mêmes sont consommateurs d'énormes quantités de métaux. Donc on est un peu dans une boucle shadowkienne là. Et quant au rejet et les écoulements d'eau de surface ou souterraine liés à la mine, eh ben, ils sont fortement acidifiés par des réactions chimiques qui sont incontournable, et pollué par les substances chimiques qu'on utilise pour concentrer la matière, etc. Bon, donc...
Bon, alors, la mine propre, alors, elle n'existe pas, la mine verte. Ben,
faudra réécrire les lois de la chimie, mais ce n'est pas mon truc. Donc, le problème, c'est que, je rappelle que les concessions minières sont accordées pour 50 ans, renouvelables deux fois pour une période de 25 ans chaque fois. Donc, on est sur le siècle. Mmh. Ça veut dire, en gros, 3 à 4 générations humaines. Hein. Bon. Et on s'aperçoit, parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été trop exploré, mais depuis quelques dizaines d'années, les archéologues, les scientifiques ont accumulé des preuves du fait que des mines préhistoriques qui n'ont jamais été rouvertes, réexploitées depuis 1500 avant notre ère, ou même avant, depuis l'an 1000 de notre ère, cette fois-ci, continue de polluer dans les mêmes conditions, avec les mêmes conséquences que ce que j'évoquais pour la période d'activité minière. Ce qui fait que ça permet de dire qu'un territoire miné est un territoire sacrifié, et il n'y a pas que le territoire, il y a la population aussi dessus.
Mmh. Autre argument, on continue notre exploration avec un nouveau témoignage de Célia Isoard.
Alors, la première chose à voir, c'est que il faut absolument arrêter d'alimenter un gouffre. Si vous prenez l'électrification du parc automobile d'un seul pays, comme la France, ça fait appel à plus qu'il n'est produit de cobalt et de lithium sur toute la planète, vous voyez ? Donc on ne pourra pas répondre à tous ces besoins si on garde l'idée de la voiture individuelle, en plus de voitures électriques qui font plus d'une tonne et demie, c'est pas possible. Donc, si l'idée, c'est de relocaliser les mines, pour répondre à un enjeu de justice sociale, c'est légitime, mais c'est malheureusement pas du tout ça qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'il y a des mines partout, il y a des projets miniers partout, et que la mine de lithium, par exemple, qui mérite de ouvrir en Allier, c'est une sorte de gisement stratégique de sûreté, en quelque sorte, mais qui va être complété par d'autres mines, par exemple, sur les territoires autochtones au Canada, dont je reviens, en Afrique, dans le triangle du lithium en Amérique du Sud. Donc, vous voyez, le problème, c'est effectivement la demande en métaux qui est absolument colossale. Et notre responsabilité, c'est pas d'accepter des mines en croyant la fable selon laquelle une mine ici égale moins de mines ailleurs, c'est d'interroger les politiques publiques qui sont des politiques ultra consommatrices de métaux. déployer la 5G, c'est ultra consommateur de métaux. Et c'est criminel, en fait. C'est un énorme problème. Et il y a énormément de projets comme ça. En fait, la plupart des projets industriels, du point de vue de leur bilan métal, posent problème. Et c'est là-dessus que, collectivement, on peut agir.
Alors, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Sylvia Izoard.
Il y a des horreurs qui se passent sur tous les sites miniers, sur tous les continents de la planète. Et des situations qui sont absolument abominables. Et effectivement, on doit se poser la question de humainement, est-ce que c'est logique, enfin, ou acceptable de laisser subir ce genre de martyrs à des populations entières et de nous rester tranquille dans notre petit coin avec des petites fleurs et des petits oiseaux autour de nous. Malheureusement, ça marche pas comme ça non plus. Et il suffit de réfléchir deux secondes. La France a un territoire qui fait 672 000 km² outre-mer compris. Hein ? Vous savez que dans le monde, l'Australie, le Canada, la Russie, le Canada, les deux Amériques, parce qu'il y a aussi l'Amérique du Sud, évidemment, qui souffre énormément, la Chine, la Russie sont des grands producteurs de métaux. La Russie, qui est le territoire le plus vaste, couvre 17 millions de km². D'autre part, la très longue et très complexe histoire géologique des continents fait que les différents métaux ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète, ni en quantité équivalente. Donc on peut avoir un métal ou une famille de métaux, parce qu'en général, il y a toujours les petits cousins qui vont avec en France, mais on n'aura pas tout le reste. Donc ça ne va pas nous aider énormément. Et enfin, Célia le disait, la production française, en raison de cette taille ridicule du territoire par rapport aux autres continents entiers producteurs de métaux, ça serait l'impact d'une cuillère à café dans une piscine olympique en termes de besoins mondiaux et annuels, parce que ça recommence tous les ans, quoi. Et puis, de toute façon, il y a un truc qui s'appelle le droit du commerce international. Les opérateurs miniers, ce sont des grandes entreprises internationales. Elles sont la propriété d'empires financiers de dimension planétaire. Donc, leur implantation en France ne serait pas du tout le résultat d'une démarche vertueuse. C'est simplement un calcul économique. Et donc, au final, le métal extrait par les filiales de ces groupes-là, il sera mis sur le marché international. Il sera vendu au plus offrant. Si les Chinois, cette année-là, ont envie d'assécher le marché de lithium ou de cadmium ou de je ne sais pas quoi, de niobium, ils le rachèteront parce qu'ils peuvent le permettre et ça n'aura rien changé à la question. Comme le dit Sylvia Izoard, le fond du problème, c'est la consommation. C'est notre modèle économique de croissance perpétuelle, surtout pas toucher à la croissance, sur une planète finie, dont la population augmente, elle aussi. Elle devient de plus en plus gourmande pour une certaine frange, parce qu'on sait aussi que la pauvreté devient de plus en plus aiguë pour un nombre croissant de personnes. C'est le progrès, je suppose. Donc, chercher l'erreur, quoi. Il y a une prise de conscience à avoir individuellement, mais on n'y est pas aidé par toute la publicité, par toute l'incitation chronique à consommer le dernier gadget.
Et ni par l'environnement politique non plus.
Qui est totalement, qui est porteur du même message, puisque en fait, on a un peu l'impression que ce sont les représentants de commerce des grands lobbies industriels, parce que c'est pas l'intérêt général qui est défendu là-dedans.
Hein. Alors on va écouter quand même un petit témoignage qui va montrer que vous trompez complètement. Hein. Vous allez voir.
Stéphane Séjourné, le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, veut accélérer la réouverture de mines de métaux rares en Europe et a reçu 170 projets d'exploitation ou de recherche minière, a-t-il indiqué mardi soir. Au nom de la souveraineté industrielle, le Français entend rouvrir des mines de métaux et terres rares au sein de l'Union européenne. On va faciliter l'attribution de permis, a expliqué le commissaire européen. J'ai récupéré 170 projets sur de l'exploitation ou de la recherche minière en Europe avec une liste de métaux rares. On est en train d'étudier, on lancera les premières garanties financières pour les boîtes qui veulent explorer, a-t-il assuré. Stéphane Séjourné s'est rendu les 8 et 9 janvier en Roumanie où cette question a notamment été abordée. Sur la Roumanie, on avait 9 projets, je ne vais pas vous donner de date mais j'essaie d'accélérer les choses au maximum, a-t-il déclaré. Je suis prêt à mettre beaucoup de capital politique là-dessus parce que j'y crois vraiment, a insisté ce proche d'Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné doit présenter fin février une série d'annonces pour relancer et décarboner l'industrie européenne, le « Pacte pour une industrie propre ». En parallèle, la Commission promet une série de mesures de simplification afin de réduire les démarches administratives des entreprises, notamment des PME.
Il va falloir simplifier très très fortement l'administration européenne, la rendre plus lisible, plus efficace. Les matières critiques, les terreaux rares, tous ces éléments sont présents aujourd'hui en Roumanie et ont un avenir, en tout cas dans la réindustrialisation européenne que nous voulons.
Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, bonjour.
Bonjour.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des minerais, comme vous le savez. Alors évidemment, on connaît le nickel de Nouvelle-Calédonie, mais on connaît peut-être moins le tungstène, la fluorine, le zinc en Bretagne, dans les Pyrénées, dans le Massif central. Il y a les fonds marins, les grands fonds dont parle aussi Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne faut pas s'interdire, Barbara Pompili, de rouvrir des mines en France ou d'ouvrir de nouveaux gisements dans les fonds marins ?
Je crois qu'il faut s'interdire de rien. Nous sommes face à une teslaïsation de la société. Pourquoi je dis ça ?
Teslaïsation.
Teslaïsation
de la société. On aime beaucoup Tesla ici, donc parlons de la teslaïsation.
Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, en 2009, Tesla, c'était 150 voitures. C'était 150 voitures. Aujourd'hui, on est à 500 000 voitures.
1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Et exactement, on a besoin que toutes nos filières, que toutes nos entreprises partent dans cette direction.
On n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Une phrase qui a été prononcée il y a un peu plus d'un an par le président de la République, Emmanuel Macron. Et ce lithium, c'est vous qui allez l'exploiter. Alessandro Dassa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général d'Imerys. Vous allez donc explorer, vous êtes en train d'explorer une mine de lithium dans l'Allier où vous exploitez déjà du kaolin avec de très grandes ambitions. Ce lithium que vous allez exploiter, si tout se passe comme vous l'avez prévu, il est donc destiné en priorité aux voitures électriques, pas aux téléphones portables par exemple.
Point de vue des quantités, la réponse est clairement oui. Une voiture en batterie des 100 kg, 800 kg, un téléphone, quelques centaines de grammes.
Mm-hmm.
Alors, téléphone, ordinateur, outils domestiques, très important, mais point de vue des quantités, l'utilisation de lithium va être surtout dans les voitures.
Donc là, on a tout un programme, hein, effectivement. Merci, merci Romain. Et du coup, toi, Dominique, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi aussi, tu veux nous prôner une teslaïsation de la société sur le plateau du pain et des parpaings ?
Bon, déjà, je vais commencer par laisser à Madame Pompili la responsabilité de sa formule. Je ne ferai pas de publicité de marque et encore moins pour le propriétaire.
En 2024. Ça date de 2022, elle ne savait pas encore que c'était un nazi.
Elle voyait loin. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on aborde la question de la décarbonation ou de l'électrification de nos modes de transport et de nos sociétés en général. Et ça va beaucoup plus loin que la seule flotte automobile mondiale. Donc, quels sont les paramètres, ne serait-ce que si on parle de la flotte automobile, quels sont les vrais paramètres de l'équation ? Est-ce que quelqu'un sait combien de véhicules sont impliqués ? Il va falloir remplacer. Quelle consommation de métaux ça va induire et quelle palette de métaux ? Personne ne le précise. Donc, je me référerai au travail de Célia Isoard au début de la ruée minière. Là, elle a un joli petit tableau dans lequel on découvre qu'une voiture électrique moderne pèse à peu près 2 fois plus lourd qu'une voiture thermique de même taille, moyenne. C'est 3 fois plus pour un gros modèle en raison du poids de la batterie et du renforcement du châssis, parce qu'évidemment, il faut que ça roule quand même.
Non, mais quand on ne compte pas.
Oui, sûrement, oui. Le basculement du parc automobile d'un seul pays européen nécessiterait deux fois la production mondiale de cobalt, 75% de celle de lithium, donc production mondiale annuelle, et 50% de la production annuelle de cuivre pour un seul pays européen. À ça, il faut ajouter, pour faire de l'électricité, de l'énergie renouvelable, il faut des éoliennes. Une éolienne, c'est fait avec du métal. Depuis les fondations en béton armé jusqu'à la nacelle avec toute la technologie en terre rare, etc. Les centrales photovoltaïques, ça couvre beaucoup d'hectares, avec les conséquences environnementales qu'on peut imaginer, mais ça va en couvrir de plus en plus. Donc chaque fois, ce sont des tables, des panneaux, avec plein de métal dessus. Les centrales nucléaires, ça se fait pas avec du carton-pâte. Les piles à combustible pour l'hydrogène, même problème. Donc, on veut nous expliquer que tout ça, ça va être complètement indolore, qu'on va trouver le métal qui va, je sais pas, ça doit naître dans les choux ou dans les rosiers, comme on disait des petits-enfants autrefois. Hein. Et en plus de ça, il faut continuer à soutenir la croissance en général. Donc, vous allez continuer à acheter vos petits gadgets. Un jeune chercheur qui a écrit en 2021 un gros bouquin sur la question, a conclu de ses recherches qu'on s'apprête à extraire en 30 ans autant de métaux qu'on en a extrait depuis le début de l'histoire humaine. Ça fait quelques centaines de millions d'années. Tout à l'heure, j'évoquais le concept désincarné de la mine. La mine qui serait juste un objet intellectuel. Bon. Dans la vraie vie, on parle d'une ressource non renouvelable, hein, le métal, dont l'extraction, la transformation sont extrêmement impactantes. C'est ce que disait Célia tout à l'heure. Elles sont considérées comme l'activité humaine la plus impactante pendant la vie de la mine et à perpétuité, comme je le disais, pour le territoire qui l'a accueilli. Alors, c'est mon opinion personnelle. Après, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais... je pense surtout que toute personne sensée devrait commencer par réfléchir aux éléments que je viens d'évoquer et se demander quelle est la variable d'ajustement la moins critique pour la planète et pour les générations futures. Apparemment, on ne nous y incite pas. C'est bien regrettable.
Empêcher les oiseaux morts de pleuvoir sur la ville.
Événement du lac de Berkelepit. Mine de cuivre à ciel ouvert, à côté de la ville minière de Butte, dans le Montana.
En novembre 2016, on retrouve près de 4000 cadavres d'oies sauvages.
Mine exploitée entre 1955 et 1982.
Lac d'acide plein de cadmium et d'arsenic.
Des trésors de technologie sont développés par les exploitants pour empêcher les oiseaux de s'en approcher, de se détourner de leur route migratoire.
Lac d'acide plein de cadmium et d'arsenic.
Mais le lac restera toxique. Pour plusieurs milliers d'années. Comment empêcher les oiseaux morts de pleuvoir sur la ville ?
Du pain et des parpaings.
Est-ce qu'il y a des oppositions au niveau local ? Je pense notamment au risque de pollution et à l'utilisation de l'eau.
Yes. On n'est pas en direct, non ?
On est en direct.
On a des oppositions, certainement, mm-hmm. Je dirais plutôt limitées. on a un bon dialogue avec toutes les communautés, l'opinion publique autour de nous. On a montré qu'on peut faire une mine durable et responsable. Ça a été bien accepté. Et je dirais le commentaire plus commun, hein, on va être attentif, on va monitorer. Mais je pense que tout le monde reconnaît les efforts faits par Imerys pour rendre ce projet acceptable.
Parce que ce n'est pas tous les jours hein, qu'on exploite une mine de lithium en France. Donc il y a forcément des craintes.
Il y a des challenges.
Les habitants dont la vie est affectée par les mines et autres méga-projets industriels et des collectifs en lutte se multiplient dans le monde entier. Et nous savons aussi comment nous organiser.
Alors, ça parlait rapidement de la mine de lithium de Échassière dans l'Allier. On aurait beaucoup aimé avoir quelqu'un d'Échassière. On a cherché, puis finalement, on n'a pas trouvé, alors qu'on a des copains, copines qui a des réseaux militants. Cette mine dans l'Allier a soulevé beaucoup d'oppositions. Donc, on entendait Dadza de nouveau, le
PDG. Nous dire que ce ne sont pas des craintes que ça soulève. Voilà. Hein, c'est des challenges que ça crée. On est rassurés.
De neuf langues et de greenwashing. Et donc, on va s'intéresser aux luttes un peu. Et puis, nous, on s'est plongé dans le magazine de ERB qui date de 2017, où il y avait un gros dossier qui s'appelait « Mine, le nouvel Eldorado breton ». Est-ce que Dominique, tu peux nous dire comment tu as eu connaissance de ces projets, comment ça a démarré cette lutte de Haut-Rivière de Bretagne à ce moment-là, notamment avec ou contre Variscan?
Ça a été un gros coup de chaud parce qu'on ne s'y attendait pas, évidemment. Et on ne savait pas trop ce que c'était que ces bêtes-là. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas... Enfin, les dernières mines... Alors, il y a encore des mines aujourd'hui en France, mais elles sont très peu nombreuses. À part, évidemment, nos malheureux collègues de Guyane qui, eux, ne souscriraient pas à ce qualificatif. Ouais. Mais...
On a fini l'émission, et puis, c'est la Nouvelle-Calédonie.
Voilà, il y a la Kanaky également qui souffre énormément. Mais je veux dire qu'en France métropolitaine, la mine, c'était un peu un objet de musée. Et donc, on ne savait pas trop par quel bout prendre le problème, surtout qu'on l'a découvert. Ça faisait plusieurs mois, pratiquement plus d'un an sans doute, que les services de l'État, le porteur de projet, étaient en discussion et affinaient leur dossier.
Ah, donc le permis exclusif de recherche minière avait été accordé.
Alors non, parce que la consultation du public, elle arrive avant l'octroi. C'est une formalité. On n'a pas beaucoup tenu compte des observations et des réticences des personnes qui ont contribué aux trois consultations. Mais c'est à l'issue de ces consultations que le ministère et les services de l'État analysent les nombreuses contributions et finalement, surprise, surprise, signent l'arrêté ministériel d'autorisation, enfin d'octroi du permis exclusif de recherche de mines. Donc nous, on était là un peu surpris de ce qui nous tombait dessus. Et on a dû apprendre beaucoup de choses très vite pour comprendre par quel bout on pouvait agir.
Donc là, on est en 2014, c'est ça ?
Oui. C'est arrivé de manière un peu décalée dans le temps pour les trois permis. Donc je rappelle, hein, il y avait Merléac, dans les Côtes d'Armor, Lochenvel, près de... arrière-pays, Belle-Île-en-Terre, par là, également dans les Côtes d'Armor. Et puis, le permis Silfiac, qui, lui, se trouvait à cheval entre une espèce d'amande verticale entre les Côtes d'Armor, le canal de Nantes à Brest, ouais. et ça allait jusqu'à Bubry, par là, dans le sud. Bon. C'était vraiment les crêtes du centre-Bretagne, donc le château d'eau de la Bretagne. Et ça nous a donné un argumentaire qui parlait à tout le monde, quoi. C'était assez facile de capitaliser là-dessus. Donc l'information, en fait, elle a... je ne serais plus en mesure de vous dire exactement comment ça a émergé. Il y a eu des bruits concourus. Il y a sans doute eu quelques élus locaux qui en ont parlé au comptoir du Café du Coin. Et ça a tout de suite moussé. Et donc localement... sans concertation aucune. Chacun pensait avoir un problème et être le seul, quoi, en gros. Et donc, il y a eu des réactions, des groupes qui se sont constitués spontanément dans chaque périmètre. Quelquefois même plusieurs groupes dans chaque périmètre. Et puis, ben, il y a eu des correspondants locaux qui ont fait un petit article dans le journal. Et puis, on a vu que, ah oui, tiens, eux aussi. Oh, chouette, on va pouvoir se parler. Et donc, ça a moussé, ça s'est aggloméré. Et puis, il y avait d'autres permis, pas seulement de Variscan, ailleurs en France. Et il y a quelqu'un qui a eu la riche idée de créer une liste de diffusion Stop Mine. Et du coup, ça nous a permis d'apprendre les uns des autres très rapidement. Et donc, voilà, ça a pris de l'ampleur, ça a floculé. Et puis, on a réussi à monter un système, pas du tout pensé, mais dans la pratique, chacun a identifié les mêmes axes de lutte, parce qu'il fallait, c'était évident. On a tous été voir, évidemment, nos élus, qui découvraient avec stupéfaction, comme le font les élus actuellement, que, comme dit l'expression un peu triviale, mais tout à fait vraie à mon sens, les maires, les conseillers municipaux qui sont à portée de baffe 365 jours par an, eh bien là, on leur envoyait une sacrée baffe sur laquelle ils n'avaient absolument pas leur mot à dire. Or, c'était des projets qui allaient impacter de manière jamais vue jusqu'à présent la gestion du territoire, les ressources en eau, en énergie. En Bretagne, on est un peu sensible sur ces questions-là parce qu'on n'est pas top. Et donc, pour eux, c'était l'Himalaya par la face nord. Ils n'étaient pas du tout contents de la manière dont on les traitait parce que c'est toujours une décision totalement verticale. Et donc, voilà, petit à petit, ça a fait tache d'huile. Et là-dessus, donc, Eau et Rivière a été alerté, sollicité, parce que, bon, comme c'est une grosse association locale, les petits groupes pensaient qu'ils allaient pouvoir trouver de la ressource là-bas. Eh ben non, parce qu'on était aussi démunis qu'eux. Moi, j'étais déjà dans des groupes locaux sur le dossier de Sylfiac, là, parce que c'était pas loin de chez moi non plus. Et donc, on a décidé d'apporter l'information. Donc, on a organisé des journées techniques de formation. On a fait venir des intervenants. On a rédigé des articles sur notre site. On a fait des publications papier également. Et on a essayé de faire synthèse. Et puis, on a aussi lancé des contentieux contre les trois permis qui avaient été signés entre-temps par M. Macron, à l'époque ministre de l'économie et des finances, puisque c'était lui l'autorité en la matière. Donc, on a tous appris ensemble, finalement. Et le truc qui... Tout de suite, on a été très conscients du fait que, même si on arrivait à casser les permis, ce qui s'est fait, eh bien, les gisements, ils seraient toujours sous nos pieds. Et qu'un jour, il y aurait un autre FADA qui débarquerait et qui voudrait s'en occuper. Donc, on s'est dit, c'est un dossier qu'il ne faut pas qu'on lâche. Et donc, on a continué à travailler la question, à constituer une bibliographie, à consulter des experts. Et aujourd'hui, on est mieux équipés et plus conscients de la marche à suivre.
Et nous, quand on avait préparé cette émission, tu nous avais conseillé d'appeler Jacques Renoux, qui est adjoint au maire de la commune de Couflins en Ariège. Et donc lui, on l'a interviewé par téléphone et maintenant on va l'écouter nous parler de la mine de tungstène du site de Salo à Couflins, qui elle a aussi été exploité jusqu'en 1986, qui a été fermé et qui a fait l'objet d'une demande de permis exclusif de recherche de mine en 2014-2015 par Variscan Mines, qui souhaitait envisager une réouverture.
Ouais, c'était toujours les mêmes.
Ouais. Et donc Jacques Renoux, il est membre du collectif Stop Mine Salo. Et il va nous parler de leur parcours, de leur histoire de lutte, de victoire et de multiples rebondissements contre Variscan Mines et aujourd'hui Néo-Métal.
Moi, je m'appelle Jacques Renoux, donc je suis à la fois adjoint au maire de la commune de Couflins Couflens, c'est une petite commune d'une centaine d'habitants dans la vallée du Haut-Salat, dans l'Ariège. Je suis aussi président de l'association Stop in Salou. Stop in Salou, c'est une association qu'on a créée en 2016 pour lutter contre un permis de recherche qui avait été déposé en 2014 même par Varis Carmine. Depuis 2015, donc, on lutte contre le projet à la fois de Varican en première instance, si je peux dire, et ensuite, on a lutté contre aujourd'hui, 10 ans après, un nouveau permis déposé par la société Néo-Métal. Mais en fait, on se rend compte que c'est plus ou moins les mêmes personnes qu'il y a derrière. Pourquoi on a été contre ce permis de recherche de Varican en 2015? C'est d'abord, on l'a appris par hasard, un jour où M. Bonne Maison, qui était PDG de Varican à l'époque, est venu à la mairie pour demander un papier qui lui manquait pour finaliser son dossier. Et là, il a dit, on va rouvrir la mine de Salou. Et le maire était là, il a entendu ça, et bon, il n'a rien dit sur le moment, mais il a commencé une réunion de conseil municipal de suite après, et le maire était un ancien qui travaillait à la mine qu'il y avait eu en 70 à 86. Il a dit, j'ai des copains qui sont morts dans cette mine, il faudrait peut-être regarder que ça ne recommence pas. Donc c'est comme ça qu'on l'a appris au départ. Le permis de recherche déposé par Varican. Mais donc avant ça, il y avait à Salou, il y a eu de 70 à 86 une mine qui a exploité du tungstène à peu près 12-13 000 tonnes au total. C'était une mine qui était située à 1230 mètres d'altitude, voilà, sur une pente très, très abrupte. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, en fait, c'est un bâtiment, une entrée de mine et surtout 1,2 million de tonnes estimées de déchets miniers qui sont sur les flancs de la montagne. Ces déchets miniers ont été analysés par Géodéris à une époque et on se rend compte qu'il y a dans beaucoup d'arsenic, du cadmium, des hydrocarbures, tout un tas de métaux lourds autres. Voilà, en gros, c'est un gros dépotoir et c'est pas sécurisé vraiment. En dessous, il y a une petite rivière qui se jette après dans le Salat, qui se jette ensuite dans la Garonne. Voilà.
Ce que Jacques Renou il nous explique suite à ça, c'est que ce qu'a mobilisé le conseil municipal en premier lieu, c'est la présence sur le site de la mine d'amiante et dans des quantités assez importantes, parce que quand ça a été découvert en 83-84, la mine était encore en exploitation et les mesures elles révélaient alors qu'il y avait 200 fibres au litre à l'endroit du concassage. Et aujourd'hui, ce que nous dit Jacques Renou, c'est que les normes actuelles d'exposition elles limitent à 10 fibres au litre. Donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et donc c'est d'abord une question de santé des travailleurs qui les a motivés. Et puis en se documentant sur le sujet, progressivement ils se sont rendus compte de toute la dimension écologique du dossier. Et ça a motivé la mobilisation du conseil municipal et de plusieurs autres associations dans une démarche judiciaire. Et quand on demande à Jacques Renou sur quels critères ils ont réussi à faire annuler le permis déposé par Variscan, on est assez surpris par le motif du recours qu'ils ont utilisé. Et donc on va maintenant retrouver Jacques Renou qui va nous raconter cette saga judiciaire.
Ça a été au départ des arguments financiers. À savoir que dans le dossier de Variscan, ils étaient financés par une société qui avait son siège aux îles Vierges britanniques. Pour justifier l'apport de fonds, la société aux îles Vierges britanniques s'était associée à un fonds de pension américain qui devait soutenir à hauteur de 25 millions d'euros. Mais on est arrivé à démontrer que ce fonds de pension américain, au départ, avait donné effectivement son accord avant le dépôt du permis, mais le jour du dépôt du permis, il s'était retiré du projet. Et ça, dans le dossier, par contre, il figurait toujours. Donc ça a joué. Ensuite, Variscan s'est associé avec une société australienne, Apollo Minerals. Et dans un deuxième temps, en appel, le tribunal de Bordeaux a jugé que la procédure avait été entachée parce que le public n'avait pas été informé de ce changement, en fait, de financement. Le dossier qui était présenté, c'était le dossier premier. Donc ça a été annulé une deuxième fois, là. Ensuite, le ministre, ça lui a pas convenu, ce jugement. Il a fait un pouvoir en Conseil d'État qui a cassé les jugements de Bordeaux et de Toulouse. Et l'affaire a été rejugée à Bordeaux. Et là, à Bordeaux, la dernière fois, c'était en début 2024, l'argument financier ne tenant plus puisque le Conseil d'État l'avait cassé, ils se sont basés sur un problème de notice d'incidence Natura 2000, car la commune de Coufflens a fait partie d'une zone Natura 2000 à partir de 2015. Le dossier de Varican ne faisait pas référence à cette notice, à cette extension de la zone Natura 2000. Donc le tribunal a dit qu'ils auraient dû compléter leur dossier et tenir compte du fait de Natura 2000. Mais depuis, le ministre, comme ça ne lui a pas plu encore, il a remis le dossier au Conseil d'État. Et aujourd'hui, on en est là, on en est à plus de 8 ans de procédure. Voilà, et c'est pas clos. Et 8 ans après de procédure, Variscan et les Apollo Minerals et tout ça sont partis effectivement du terrain en 2019 après la première annulation. Ils ont tout laissé en l'état. Ils doivent faire une procédure de fin de travaux comme c'est prévu par le code minier. Ils l'ont pas fait. Et là-dessus, on veut rajouter encore un nouveau permis de recherche. Alors, dis pas les broglios juridiques que ça va donner.
Réaction Dominique ou parce que on a plein de questions, c'est vrai que c'est un peu sidérant ce témoignage avec le Conseil d'État qui fait ce qu'il veut. Tout à l'heure on parlait des ordonnances, c'est pareil en fait, on a la démocratie qui nous échappe complètement. Ouais. Et on a une espèce de bande de voyous qui s'organise pour quasiment ils ont tous les pouvoirs. Alors on peut que admirer leur ténacité. Défense juridique et leur ténacité et leur ingéniosité aussi d'avoir trouvé un argument financier et tout ça. C'est qu'est-ce que ça t'évoque toi par rapport aux luttes de ERB? Est-ce qu'il y a toi aussi qui es dans cette partie juridique?
Alors oui, modestement, on avait les mêmes interlocuteurs. Le monsieur Bonne-Maison qui était à la manœuvre, il était à la manœuvre en Ariège, aussi en Bretagne, dans les pays de la Loire, etc. C'est un ancien du BRGM, il a fait toute sa carrière là-bas.
Le BRGM, c'est un bureau...
C'est le bureau de recherche géologique et minière. Et donc, c'était le type de personnage qu'on avait en face de nous. Mais c'est quelqu'un qui a aussi une fibre économique et financière assez développée. Donc il avait monté son affaire avec les Australiens. Il a des sociétés qui sont... je crois que c'est une maison qui appartient à sa famille et à l'entrée du portail, il y a une batterie de je sais pas combien de boîtes à lettres avec le nom de toutes les petites sociétés qu'il a créées, mais qui sont des affaires qu'il fait vivre pas mal. Enfin, c'est... Mais en l'occurrence, il veut pas lâcher le morceau, là, c'est clair. Il est reparti pour une autre... Alors que il y a des expertises scientifiques... médical qui démontre la dangerosité, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un véritable piège mortel, cette mine. On sait, parce que ça a été établi, que les ouvriers qui ont travaillé dans la mine avant l'époque Variscan, c'était des gens qu'on renvoyait rapidement chez eux, et c'était souvent des gens qui venaient d'Afrique du Nord, donc il n'y a absolument aucun constat épidémiologique, aucun suivi médical, ni rien du tout. Donc, le peu de gens qui étaient des locaux et qui sont restés, quand on voit la statistique de mortalité, c'est facile de se rendre compte que.
C'était le premier réflexe du maire de Coufflens de dire oulala, on sait ce que ça a donné. Oui, on va le rouvrir.
Quoi. Sans compter que, comme il le disait, les normes ont considérablement été durcies parce qu'au départ, c'était un peu de la plaisanterie. Et aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques et médicales qu'on a, on a été obligé d'abaisser considérablement les seuils. Donc, c'est une histoire de fou, cette mine.
Et c'est une histoire d'autant plus folle qu'elle continue aujourd'hui avec Néo Métal. Peut-être un peu comme en Bretagne où 10 ans après la vague de permis déposés par Varisk en mine, on découvre aussi une nouvelle société, joliment nommée Braise Ressources, entreprise basée à Lorient dont l'unique actionnaire est Orania Ressources, une société canadienne immatriculée au registre du commerce aux Bermudes.
Son président est Keith Barron, un géologue britannico-canadien, homme d'affaires à tendance aventurier, devenu célèbre dans le milieu minier pour avoir découvert en 2006 l'une des plus grandes mines d'or du monde en Équateur.
Donc la start-up Braise Ressources a été créée en septembre 2023 et elle a été montée pour déposer 3 permis exclusifs de recherche de mines sur une superficie de plus de 850 km² et qui concerne 42 communes en Bretagne et en Loire-Atlantique.
Ces opérations sont tout aussi joliment intitulées Epona, Belenos et Taranis, 3 divinités gauloises de la mythologie celtique.
Ces 3 permis d'exploration, ils ont été demandés dans la plus grande discrétion entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2023. Et leur but est de rechercher une 40aine de métaux dits stratégiques, dont le lithium, l'antimoine, l'étain, ou des minerais comme l'argent et l'or.
Alors c'est parti, on retourne dans cette arrière-salle avec Dominique.
Alors du coup, Dominique, là, ERB se positionne comment par rapport à ces tentatives de Braise Ressources, là, ces nouveaux projets miniers, qu'y a-t-il comme démarche et est-ce que c'est possible de s'opposer à ces projets? Qu'est-ce qui se passe chez vous?
Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a la même analyse sur les risques encourus par la population et le territoire. Donc, nous sommes tout de suite, mais avec le bénéfice de l'expérience Variscan, merci à eux, on a tout de suite mis en place 2 lignes d'action. La première, c'était évidemment la sensibilisation et l'information de la des populations concernées, parce qu'il y a donc en Bretagne, il y a 2 permis qui sont en instruction, à commencer par les élus. Et puis, évidemment, on a organisé des réunions publiques, on fait des interviews, on publie des articles sur notre site, etc., etc. Et on suit de très près l'évolution des dossiers. Outre la sensibilisation et la communication, on a lancé une opération de collecte de refus d'accès aux propriétés privées. Et donc, on a suggéré aux propriétaires ou aux organismes, parce qu'il peut y avoir des associations, il y a les communes, il y a les syndicats des eaux, il y a de refuser l'accès à leur propriété pour des fins de prospection pédestre, puisque c'est l'une des premières étapes de la prospection. Braise Ressources a admis dans ses documents lors de la consultation publique qu'il n'avait le financement que pour les 2 premières étapes de recherche. Et l'objectif de la recherche, c'est que vous commencez avec un grand périmètre. Vous faites ces prospections pédestres avec des prélèvements tous les temps de centaines de mètres dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, vous les passez sous le microscope et vous regardez s'il y a des traces de métal. Et vous identifiez des patatoïdes dans lesquels les traces sont plus concentrées. Et du coup, vous laissez de côté le reste du périmètre, parce que 350 km², ça coûte des sous. Et vous vous concentrez sur 3, 4, 5 patatoïdes qui, eux, ne mesureront que 50 km² au total, quoi. Et là, vous passez à l'étape suivante, qui est en général de faire des survols aériens avec des mesures magnétiques. Enfin bon. Et puis après, vous pouvez faire des forages. Et puis. Bon. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et eux, ils ne l'ont pas actuellement. Donc, ils ont besoin de faire des cartes, de faire des rapports triomphants en disant qu'ils ont trouvé le jackpot, à destination des clubs d'investisseurs spécialisés dans l'activité minière. Ça existe, particulièrement dans l'Extrême-Orient, mais au Canada aussi, en Australie, etc., pour les encourager à mettre de l'argent sur la table pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc,
ils ont besoin d'investisseurs.
Ils ont besoin d'aide pour passer à l'étape suivante.
C'est des startups de la mine, en fait.
Oui, c'est des joueurs de poker, un peu. Mm. Mais les investisseurs, ils adorent ça. Hein, ça leur donne de la... Ah, oui. Et donc, l'objectif, et ça a marché avec Variscan, puisque c'est comme ça qu'on a réussi à les casser, c'est en ayant un nombre important de refus d'accès à un nombre important de propriétés privées, donc de surface. Je vais reprendre une citation de ce cher monsieur Bonnemaison. Il a dit les associations ont transformé le périmètre en nappon de dentelle. Plein de trous. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit d'exploiter les données. Ça les a mis en difficulté par rapport à leur calendrier, parce que quand on accorde un permis minier, ça, il y a un calendrier de travaux. Et si vous n'adhérez pas à ce calendrier, vous avez intérêt à avoir une bonne raison. Ben, eux, ils avaient une raison, mais elle n'était pas très vendante vis-à-vis du ministère. Donc, ça leur a créé des complications. Et puis après, comme Jacques Renoux l'a expliqué, ça a mis de l'eau dans le gaz par rapport aux sociétés qui les abritaient au départ. Et puis, c'est parti en vrille, quoi. Donc, espoir de parvenir à un résultat identique, sachant qu'on a lancé la campagne de collecte de ces refus en juin dernier, je crois. Et ça rentre tous les jours. Et comme ça, ça contribuera à la démarche générale de...
Ce grand travail collectif de dentelle à l'échelle du territoire.
Et là, il y a plusieurs communes qui ont délibéré pour interdire l'accès aux terrains communaux. Alors, le cimetière, le terrain de sport, mais il y a aussi des réserves foncières pour le lotissement ou la zone d'activité, que sais-je. Donc, on arrive à des résultats qui sont très, très satisfaisants.
Excellent. Bravo, ERB et puis tous ces gens.
C'est surtout tous les membres du public qui
n'ont pas seulement la rage, mais aussi beaucoup d'obstination et d'ingéniosité.
Je tiens à souligner que là aussi, on travaille la main dans la main avec soit des associations qui déjà étaient créées et opérationnelles sur les périmètres, ou bien des petits collectifs locaux qui, de manière assez épidermique, se sont dit « non, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça ». Donc, ils ont retroussé leurs manches et ils se sont lancés dans une communication. Donc, on œuvre tous dans le même sens et en bonne entente, ce qui est assez plaisant, je dois dire.
Merci beaucoup Dominique pour ta participation à notre 22e émission.
On vous souhaite une bonne continuation dans cette lutte qui s'enclenche.
C'est bien parti,
Qui a l'air bien partie, en tout cas, s'il y a bonne entente.
On invite tout le monde à aller voir le site de Hauts-et-Rivières de Bretagne pour voir toutes ces ressources-là. Et puis, on va proposer plein d'autres choses. Pour se documenter. Merci encore.
Merci à vous pour la publicité que vous donnez à nos actions.
À bientôt.
À bientôt.
Ouais.
Merci.
Salut.
On a entendu dans cette émission des extraits de l'émission Curiosité de la radio Rennes Canal B que vous pouvez retrouver sur la plateforme radio bretonne BOA avec Célia Isoar.
Un instru de Arsenic Beats.
Et là maintenant, tout de suite, Valarée des songes du groupe Joujou.
Et enfin, pour finir, on vous conseille le livre évidemment de Célia Isoar, La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition, aux éditions du Seuil, paru en 2024.
Les enquêtes du média indépendant se planent, notamment celle sur la junior Braise Ressources, avide de venir creuser les sous-sols bretons qu'on peut lire sur le site splante.org.
On vous conseille d'aller fouiller sur le site très fourni d'Hauts et Rivières de Bretagne et sur le site du collectif ariégeois www.stopminesalo.com.
Ou encore sur le récent blog ralamine.noblog.org qui recense les luttes qui s'opposent aux projets miniers partout sur la planète. Et sur le site alternative-projetminier.org.
Et on envoie une spéciale dédicace à Radio Kipik, une web radio copine basée à Saint-Giron, à quelques kilomètres de Coufflance et de Jacques Renoux. On les remercie pour nous avoir diffusé et on leur souhaite longue vie.
À bientôt.
Salut.
Salut.
Ciao. Je viens délivrer tes lèvres.